France Inter.
Aujourd'hui, John Muir, le vagabond devenu héros de l'Amérique, raconté par
Alexis Génie, écrivain, romancier et biographe.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Quittez de temps à autre votre vie active pour gravir une montagne, passez une semaine dans les bois, immergez-vous dans la nature sauvage pour purifier votre esprit. Ces mots sont ceux de John Muir, l'homme le plus libre que j'ai jamais rencontré, disait de lui le président américain Theodore Roosevelt. Si son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, John Muir est une légende de l'autre côté de l'Atlantique où il est considéré comme un père fondateur de l'écologie. Son enfance en Écosse et son adolescence dans une ferme du Wisconsin ont semé les graines de sa passion pour la botanique, mais c'est son amour pour la liberté et l'aventure qui l'ont poussé à délaisser la vie urbaine. En 1867, à l'âge de 29 ans, ce jeune naturaliste exalté s'engage dans un périple à travers l'Amérique, parcourant à pied plus de 1500 km jusqu'aux terres sauvages du sud des États-Unis. L'objectif de Muir est de se plonger dans les étendues inexplorées et luxuriantes de la Floride au golfe du Mexique. C'est dans cette Amérique post-guerre de sécession que Muir découvre un pays contrasté, accueillant et hostile à la fois. Guidé par sa boussole et une soif insatiable de découverte, Muir commence son voyage en quittant la région des Grands Lacs. Avec son look de vagabond à la barbe fournie, il traverse les villes et les villages, préférant les étreintes silencieuses des forêts denses aux conversations humaines. Ces moments de solitude sont pour lui l'occasion de rédiger des notes dans ses carnets de voyage qui témoignent d'un esprit curieux et d'un observateur à la démarche scientifique. Muir y décrit les arbres et les paysages avec une précision poétique, capturant l'essence de chaque lieu à travers ses croquis et ses descriptions. Ses écrits vont faire de lui une figure emblématique du mouvement préservationniste et c'est au cœur de cette nouvelle société industrielle du 19e siècle qu'il va créer le parc national de Yosemite. J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, aurait écrit John Muir, qui était aussi un inventeur de génie et qui aurait pu gagner beaucoup d'argent en commercialisant ses machines. Mais c'est avec un autre génie, Alexis, que nous allons vous raconter aujourd'hui le destin de John Muir.
Ce grand spectacle est éternel. Il y a toujours un lever de soleil quelque part. La rosée ne sèche jamais tout d'un coup. Une averse tombe pour toujours. La vapeur monte toujours. Lever de soleil éternel, coucher de soleil éternel, aube éternelle et crépuscule. Sur les mers, les continents et les îles, chacun à son tour tandis que la terre roule.
Un poème de John Muir traduit par Jérôme Boulet. Bonjour Alexis Génie.
Bonjour.
Prix Goncourt 2011 pour votre premier roman « L'art français de la guerre ». C'est vous qui allez nous raconter la vie de John Muir que j'ai découvert grâce à vous cet été avec cet ouvrage qui était pourtant sorti en 2020. J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Cette phrase, il l'a vraiment écrite ?
Oui, tout à fait. Ouais. Alors ça fait partie des tas de choses qu'il a dit parce qu'il donnait beaucoup de conférences, il écrivait beaucoup d'articles. Il y a une grosse masse de propos de John Muir. Il a écrit peu de livres parce qu'il n'aimait pas écrire, parce que pour écrire, il fallait s'asseoir, rester enfermé. Mmh. Mais par contre, il parlait beaucoup, il écrivait énormément dans la presse, dans les revues.
Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui John Muir, aux États-Unis en particulier ?
Alors, aux États-Unis, c'est un héros national. Il y a un John Muir Trail, c'est le sentier John Muir dans la Sierra Nevada. Il y a un John Muir Day, qui est le jour des parcs nationaux. Il est très 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 connu. En France, on le connaît peu.
Ouais.
Cette biographie que j'ai faite, c'est la première en français.
Ouais.
Parce qu'il n'y en avait pas avant.
Et pourtant, beaucoup le considèrent comme un des pères de l'écologie. On va en discuter d'ailleurs, parce que cette idée est plutôt contestable.
Oui, c'est à discuter, parce que c'est complexe. Ouais. Il est quand même un homme de son époque, pas obligatoirement un précurseur. Mais bon, oui, en effet, c'est une figure importante de la pensée de la nature. Ça, c'est clair.
Si on résume son parcours sous forme de bio-express, on pourrait dire ce que vous écrivez d'ailleurs, que son métier c'était vagabond, son activité vagabondée et sa vocation le vagabondage. En fait, c'est ça, hein, ça résume tout.
Son goût dans la vie c'était de se promener. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. il a commencé, vous parliez dans l'introduction, son premier voyage, ça a été 1500 km à pied à travers l'Amérique profonde.
1000 miles. Hein.
Son premier livre qui raconte son voyage, mais un voyage... un voyage avec des choses surnormales, une besace et un chapeau, hein, c'est tout. Et puis il dormait dans les buissons et il mangeait ce qu'il trouvait. C'était vraiment du vagabondage.
Ouais, mais avec un look un peu chic quand même, quand on regarde, parce qu'il avait son petit gilet à l'époque.
Ah oui, alors ça, c'est, oui, c'est vrai.
Il y a quelques photos de lui qui sont assez
croquignoles. Un look un peu de ville quand même. Quoi, ouais. Voilà. Mais du coup, pas du tout un look outdoor. C'est pas, vraiment, il s'était pas chez Decathlon qui s'habillait.
Ouais. Vous avez aimé passer du temps avec lui pour l'écriture de ce livre.
J'ai adoré, je suis tombé en amitié avec cet homme-là. Pendant des mois, j'ai fait que ça. Et j'adorais, j'ai lu tout ce qui était disponible en français, j'ai lu ce qui était disponible en anglais. Enfin bon, il m'a occupé pendant des mois, avec joie.
Alors, il est né, non pas en Amérique, mais en Écosse.
En Écosse, hein, 1838.
Ouais. Comment est-ce qu'il est arrivé, alors, aux États-Unis exactement?
Eh bien, quand il a eu 11 ans, son père, brusquement, a dit nous partons en Amérique demain.
Comme ça, sur un coup de tête.
Son père était un peu spécial, hein. C'était un presbytérien raide, et donc il prenait des décisions raides, et donc il a annoncé à ses enfants que le lendemain il partait en Amérique. Voilà.
Et l'idée c'était quoi? De faire quoi en Amérique?
C'était l'époque de la ruée vers l'or en Californie. Mais ça l'intéressait pas du tout, son père. Son père, il voulait mener une vie, on va dire, de pionnier archaïque et biblique. Donc, son but, c'était de construire une ferme de ses mains et cultiver cette ferme, une sorte de petite maison dans la prairie, finalement.
Ouais, c'est ça.
Et donc, il a emmené avec ses enfants, lui, sa femme, et, tout, et hop, il est allé dans le Wisconsin.
Ouais.
Et là, ils ont construit une ferme, ils l'ont cultivée, et le petit John Muir, à 11 ans, est resté là une dizaine d'années.
Ouais.
Il a fait toute sa jeunesse.
Dans des conditions épouvantables, parce que si la DAS avait existé à l'époque, on lui aurait retiré ses enfants.
Oui, parce que c'était entre la petite maison dans la prairie et puis le camp de travail à régime sévère.
C'est ça, ouais.
Il fallait travailler du lever du soleil au coucher du soleil. Il ne fallait pas rire et ne pas parler à table, car il fallait méditer sur ce qu'on mangeait et remercier le Seigneur. Il ne fallait pas lire, si ce n'est la Bible, etc. etc.
Ouais.
Donc, et après, quand il y a un épisode complètement fou où il veut creuser un puits. Alors les voisins proposent au père de mettre de la dynamite. Mais non, il a un fils. Pourquoi faire avec de la dynamite? Et pendant des semaines, le fils va creuser au burin un puits.
C'est ça. Ça, c'est l'enfance de John Muir.
Une enfance dure.
Dans ce contexte.
Alors, il s'en est jamais plaint.
Ouais.
Il s'en est jamais plaint. Il a toujours été très dur au mal.
Ouais.
Toute sa vie, il avait une résistance physique et morale extraordinaire.
Alors, il ne va pas s'en plaindre, mais finalement, il a vécu comme un vagabond dans la nature. C'est peut-être aussi une façon pour lui de s'extraire de ce camp de travail.
Il supportait pas les contraintes. Il supportait pas les contraintes sociales. Il voulait se promener dans la forêt. Ouais. C'est tout.
Et alors, c'était un bricoleur, le petit John Muir. Parce que très tôt, en fait, il c'est un peu un petit Léonard de Vinci, quand même. Quand on décrit les appareils qu'il est en train de mettre en point,
mais
c'est incroyable.
C'est la partie de sa vie que je comprends pas. C'est-à-dire que il a réussi à obtenir de son père un petit manuel de physique. Et là, il voit le principe du pendule. Bon, j'ai aussi étudié le pendule quand j'étais au lycée. Ok. Et là, il se dit, on pourrait peut-être faire une horloge avec ça. Il a jamais vu d'horloge. Et bien, il va en fabriquer une à partir du principe du pendule. Et les rouages, il va les tailler en bois.
Ouais.
Et l'horloge, elle va sonner les heures. Et ça, je trouve ça absolument insensé. Et il faisait ça. Alors, il demande à son père s'il peut travailler un petit peu à ça. Son père dit non, t'as qu'à te lever plus tôt. Alors, au lieu de se lever à 6h du matin, il se lève à 1h du matin.
C'est ça.
Et la nuit, dans la cave de la cabane, là, il construit ses horloges. Et quand elle sonne les heures, son père est complètement scié. Et là, il ronchonne un peu. Si j'avais su que t'allais faire ça, j'aurais peut-être pas accepté. Parce qu'il déborde là. Et puis, mais comme il ne pouvait pas se dédire de sa promesse, voilà.
Et alors, il présente ses appareils, hein, quand même.
Après, il en fait plein.
Il se déplace.
Il va en vendre aussi.
Ouais.
Alors, j'ai observé des photos, parce que l'université de Wisconsin a gardé des exemplaires de ces machines. Il y a une machine, une sorte d'horloge, qui sonne les heures, qui à certaines heures ouvre un livre. Puis, une fois que la page est lue, tourne d'un cran, puis ça ouvre un autre livre, etc., pour qu'il puisse s'habiller tout en lisant. Parce que, il ne faut pas oublier que cet homme-là, il avait une culture livresque extraordinaire. Et ça, c'est...
Mais il lisait en cachette. Hein.
Il lisait en cachette. Et il lisait toutes les sciences de son époque. Il était au courant de toutes les sciences de son époque. Et également, il était passionné de poésie anglaise. Et puis, bah, il a lu la Bible. Mais ça, il a dû l'apprendre par cœur. C'est son père qui l'obligeait à apprendre la Bible par cœur, à coup de trique. Donc, culture biblique, culture littéraire, culture scientifique. Et il a passé quand même quelques années à l'université du Wisconsin, après la ferme. Donc, c'était un homme, une sorte d'esprit quand même assez universel, à la fois très physique, très résistant, très volontaire, très cultivé.
Et il aurait pu devenir milliardaire, justement, s'il avait exploré ses talents d'ingénieur.
Il avait bossé dans une fabrique de chariots. Et donc là, il y avait des machines pour fabriquer les roues chariots, les chariots bâchés de Far West. Donc il y avait une façon de fabriquer les roues, donc il a perfectionné les machines pour le faire, etc. Ça marchait super bien. Et puis il y a un accident. Il y a un outil qui rip, ça lui perce la cornée, il perd la vue. Et là, il est désespéré, il se dit « Oh, j'aurais dû aller dans la nature avant, comme ça je me serais repassé les images, mais là c'est foutu, je suis dans le noir pour la vie. » Heureusement, il est bien soigné, il récupère sa vue, et là, il n'a plus jamais travaillé de sa vie, parce qu'il ne fallait pas perdre de temps. Il fallait aller voir la nature, parce que c'est ça qui l'intéresse.
Et alors, c'est quoi le choc, finalement ? Vraiment le moment fondateur de ce lien, de cette relation qu'il entretient avec la nature, une relation assez mystique aussi, d'ailleurs, hein, vous le dites.
Oui, complètement. C'est, alors, je trouve que le moment fondateur, c'est comment il se débrouille pour arriver en Californie, avec un périple totalement insensé. Et là, il s'emploie à garder des moutons. Et puis il va dans la montagne, dans la Sierra Nevada, et là il débouche sur la vallée de Yosemite. Et il a un moment, il y a un coup de foudre amoureux dans cette vallée qui est très impressionnante. Et ça lui coupe le sifflet et il danse.
Ouais.
Alors ce qui est drôle, c'est que danser devant Yosemite, c'est le roi David qui danse devant la Terre Promise. C'est donc une façon biblique de mettre en récit son émerveillement. Mais il va passer sa vie autour de Yosemite, c'est-à-dire qu'il va s'y installer, il va y revenir.
Ça va être vraiment le coup de foudre, effectivement.
Vraiment, ça va être un coup de foudre. C'est l'endroit de John Muir.
Alexis Génie, on va écouter un autre extrait dans la voix de Jérôme Boulet d'un été, justement, dans la Sierra.
12 juin. Encore une de ces magnifiques journées de la Sierra, au cours desquelles on a l'impression de se dissoudre et d'être absorbé, puis envoyé tout palpitant de ses trous. La vie ne semble ni longue ni courte, et nous ne songeons pas plus à gagner du temps ou à nous dépêcher que les arbres et les étoiles. Voilà la véritable liberté, voilà une excellente et pratique sorte d'immortalité. Aussi longtemps que je vivrai, j'entendrai les chutes d'eau, le chant des oiseaux et du vent. J'apprendrai le langage des roches, le grondement des orages et des avalanches. Et je resterai aussi près que possible du cœur du monde. Et qu'importe la faim, le froid, les travaux difficiles, la pauvreté.
Et c'est exactement ce qu'il a fait, Alexis Génie, de sa vie, John Muir.
Tout à fait. Il était en contact avec, j'allais dire la nature. Bon, dans toute son œuvre, jamais il n'écrit le mot nature. C'est la création. Et donc, il y a un rapport quasiment mystique à ces forêts, ces montagnes, parce que c'est la création, et ils se fondent dans cette création.
Allez, John Muir, on va en parler avec vous dans un instant, et puis on attend également vos réactions, peut-être vos témoignages, si vous avez lu John Muir, si vous avez été touché par sa façon d'écrire, et ce style d'ailleurs particulier, on va en discuter. Vous nous rejoignez avec vos messages sur franceinter.fr.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Vers cette époque de l'année, je soupirais moi aussi après les montagnes. Mais n'étant guère argenté, je ne voyais pas comment j'allais parvenir à manger tous les jours à ma faim. Ruminant anxieusement ce problème du pain quotidien, source de si cruels soucis pour qui voyage à l'aventure, j'essayais de me persuader que je pourrais peut-être apprendre à vivre comme les animaux sauvages, glanant ma pitance de ci de là, sous forme de graines et de baies, au gré de flâneries et d'escalades entreprises, dans une joyeuse indépendance des contingences matérielles.
Une lecture toujours d'un des textes de John Muir en Californie. Alexis Génie, vous qui nous racontez l'histoire de cette figure mythique du naturalisme américain, c'était l'objet de cette biographie « J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond » qui était sorti en 2020 chez Paulsen. Parlons justement de l'écriture de John Muir qui mêle à la fois donc les observations de la nature et puis sa propre vie, parce qu'il se raconte beaucoup, hein, et c'est ça qui fait ce genre particulier.
Alors, ce qu'il écrivait tout le temps. C'est-à-dire qu'il y avait toujours sur lui un carnet. Ils sont disponibles sur Internet. Il y a l'Université du Pacifique, il y a tout scanné, tout transcrit. C'est extraordinaire. Je sais pas, il y a 80 carnets et plein de choses qui n'ont jamais été publiées. Et donc, à partir de ces notes de carnet, il écrivait des articles. Et à partir de ces articles, il a écrit quelques livres à la fin de sa vie. Mais c'est toujours pour la même chose, ça raconte ses promenades. Mmh. Finalement, il passait son temps à se promener et à être enthousiasmé par ses promenades. Il notait ses enthousiasmes et il en faisait des articles.
Mais est-ce que ces observations ont servi la science aussi ou pas ?
Alors, une fois. Alors, je pense qu'il était un botaniste de bon niveau, mais il n'a jamais rien publié. Alors, le botanique, ça lui servait en fait à admirer, à mieux regarder. Voilà. Mais autrement, il n'a jamais rien publié. Il a fait un travail. Un travail parce que il a déterminé l'origine glaciaire de la vallée de Yosemite. Alors, le point de départ de ce travail, c'est qu'il a lu les bouquins de Louis Agassiz, qui était un géologue suisse, qui a inventé la notion d'air glaciaire. Qui après est venu aux États-Unis. Donc il a lu ses bouquins, l'air glaciaire, les calottes polaires disparues, enfin les calottes glaciaires disparues. Et là il se dit, Yosemite quand même ça ressemble bien à une vallée glaciaire. Alors la tradition géologique de l'époque c'était un effondrement, parce qu'il y a une célèbre montagne qui s'appelle The Half Dome, le demi-dôme, on a vraiment l'impression qu'il en manquait un bout qui s'est effondré. Mais ouais. Voilà, et lui il a dit non, c'est glaciaire. Et il va faire une sorte de programme de recherche qui est en fait un programme de promenade. Il va se promener partout dans Yosemite pour chercher des traces d'érosion glaciaire.
Et il va trouver.
Et il va les trouver. Des stries glaciaires, des traces d'érosion glaciaire, du sable glaciaire, etc. Et à des petits bouts de glaciers encore vivants. Et donc, il va démontrer par là que Yosemite est une vallée glaciaire. Alors après, il va utiliser cette interprétation pour tous les relais qu'il trouve.
Oui, c'est un fou des glaciers, en fait.
Hein.
C'était quasiment obsessionnel chez lui.
Ah
hein.
Oui, il adore ça, c'est beau, c'est puissant. Il faut dire que c'est très impressionnant, un glacier. Puis quand on se rend compte que les glaciers bougent et coulent lentement et tranchent les montagnes, ça fait rêver.
Il dit partout où on trouve des glaciers, le monde est dans un état de création constante. Donc là encore, hein,
oui,
en
prise
création... directe avec le mysticisme. Hein.
Absolument.
Et alors, il va en Alaska aussi. Alors ça, c'est des pages que vous décrivez qui sont à mourir de rire, parce que John Muir, c'est pas le type qui va s'habiller pour la circonstance.
Ah non, il y va
avec sa petite chemise.
Il met sa petite veste comme ça.
Il monte jusqu'à 4000 mètres d'altitude.
Voilà, et puis après, et là, il y a une notation qui est très drôle. Il dit « Oui, j'avais oublié ma veste au camp ». Donc il est monté en chemise dans les neiges.
C'est ça.
Dans les neiges. Bon, ben d'accord. Alors non, mais il part à l'aventure à traverser un grand glacier alors que la nuit tombe et puis après il faut revenir à travers les crevasses. Bon, il est carrément dans les conduites à risque un petit
c'est
peu adolescente. Mais il survit à tout.
Ouais. C'est une force de la nature.
C'est une force de la nature absolument incroyable. Il est surpris par une tempête en montagne. Il reste une semaine dans une cabane qu'il s'est fait dans la neige avec des branchages.
Et il mange rien en plus.
Il mange rien.
Il est toujours en état de jeûne permanent.
Absolument. Et alors, à se demander si un petit pain, un petit côté anorexique qui lui fait tourner à fond son cerveau. Sur la fin de sa vie, comme il était très connu, il était très invité,
oui.
Il a beaucoup mangé. Mm. Et quand on lui disait « Oh là là, mais vous un assiette, pourquoi vous mangez tant comme ça ?» Vous savez, hein, j'ai beaucoup été affamé hein, pendant mes promenades, donc là, maintenant ça va, j'en profite.
C'est le moins qu'on puisse dire quand on vous lit, en tout cas, Alexis Génie. Alors, ça a été un ardent défenseur de la préservation des terres sauvages américaines. On l'appelle d'ailleurs le père des parcs nationaux. C'est quoi exactement son apport, alors, pour comprendre ?
Alors, c'est un apport littéraire. C'est-à-dire que, en lien avec une revue de l'époque, il décide de militer pour la création d'un parc national à Yosemite en Californie. C'était déjà à l'époque où on pensait créer des parcs nationaux. Yellowstone avait déjà été créé. Et donc, c'était le moment où on se rend compte de la dévastation de la nature par le développement économique. En Californie, c'est terrible. Il a connu la Californie quasiment vierge d'activités humaines. Il la voit dévastée par l'abattage des arbres, la prospection, le train, etc., les moutons. Et il faut faire
des incendies aussi, d'ailleurs.
Les incendies,
hein, il parle des incendies, ouais.
C'est terrible. Donc, il voit ce paradis dont il était tombé amoureux, il le voit dévasté par l'activité humaine. Donc, il décide de militer pour que l'on crée un parc dans la Sierra Nevada et il va écrire des tas d'articles. Nos parcs nationaux, dit-il. Et il fait l'éloge de la forêt, il fait l'éloge.
Mais c'est une forêt avec ou sans humains, en fait ?
Alors, justement. Là, le problème, dans le cas de Yosemite, avant qu'il arrive, les Indiens avaient été exterminés. carrément. L'armée avait été envoyée, parce qu'il y avait eu des problèmes avec les prospecteurs, les Indiens trouvaient quand même extrêmement discourtois que l'on vienne creuser dans leurs terres, et donc on avait envoyé l'armée pour les liquider. Et ils ont été liquidés. Donc en fait, là, il y a eu un nettoyage ethnique de la Sierra Nevada, et quand il est arrivé, Muir pouvait être dans son délire un peu de création naturelle, de monde vide, etc. Mais bon, il n'a jamais considéré en effet les peuples autochtones, parce que il les a jamais considérés dans cette histoire de préservationnisme. Pour lui, il fallait préserver la création, parce que détruire la création, c'était quasiment un blasphème vis-à-vis du créateur. Et il fallait aussi qu'il reste des zones vierges pour que l'homme des villes puisse se replonger régulièrement dans la nature vierge pour se ressourcer, avoir une vie humaine complète.
Donc il y a quand même cette idée qu'il faut laisser la nature en paix, quoi.
Voilà, complètement.
Pas la marchandiser, en tout cas.
Absolument. Et d'ailleurs, une fois que le parc a été constitué, il y a eu des tensions. Lui, il est tenant du préservationnisme, c'est-à-dire on fait plus rien. Et il y a eu des débats avec un certain Pinchot, qui était lui qui voulait une activité économique régulée.
Mais donc c'est conservation, préservation, voilà. Il y a tous ces débats en fait.
C'est des débats qui existent encore dans les parcs nationaux français. Est-ce qu'on n'a plus le droit de rien faire ou est-ce qu'on peut faire certaines choses contrôlées? Voilà, c'est... Et donc selon Muir, qui avait une vision assez mystique de la chose, non, on ne fait rien, l'homme n'a pas sa place.
Et il va convaincre Theodore Roosevelt alors à ce moment-là?
Oui, alors il voulait absolument que le parc Yosemite devienne fédéral, parce qu'il n'avait aucune confiance dans les politiciens californiens, et un jour il rencontre Roosevelt, il l'invite à aller dans la forêt tout seul.
Ils vont bivouaquer tous les deux.
Ils vont bivouaquer 3 jours.
Et il veut absolument être seul avec le président.
Seul avec le président, sans la suite, sans rien, sans la cour, etc.
Et Roosevelt accepte.
Et Roosevelt, parce qu'il était le président baroudeur, etc., cavalier et tout. Et donc, ils vont 3 jours dans la montagne, ils font des feux de camp, ils bavardent, la neige tombe, ils dorment en plein air, et ils redescendent, ils sont ravis tous les deux. Et donc, Roosevelt, c'est là qu'il dit, c'est l'homme le plus libre que j'ai jamais rencontré. Et toute leur vie se sont écrits parce que ils avaient trouvé quelqu'un qui pouvait le comprendre.
Mais ça chacun. Donne naissance à un acte politique de la part de Roosevelt ou pas ce bivouac là de 3 jours.
Je pense que Roosevelt il mettait aussi en scène son image de président baroudeur, chasseur, etc., cavalier.
Ouais.
Mais je pense que sincèrement, il voulait que il y ait des zones de nature qui soient épargnées. Alors chose amusante, il a dit après oui, c'est bien, ça pourrait faire une réserve de chasse,
ouais.
Ce qui n'était pas du tout dans l'idée de Muir. Mais bon, l'intérêt, c'est que ça soit préservé.
En tout cas, le parc national des Yosemite est acté par le Congrès américain en 1890.
Et il existe toujours.
Ouais.
Il est très fréquenté, ouais. Il existe toujours.
Que reste-t-il de John Muir? C'est ce que nous verrons dans un instant. Et puis une petite part d'ombre aussi que nous évoquerons avec vous, Alexis Gény.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Souvent, il me fallait coucher dehors sans couverture, mais aussi sans souper ni déjeuner. Pourtant, je n'avais d'ordinaire guère de difficulté à trouver une miche de pain dans les clairières largement espacées les unes des autres où étaient installés les fermiers. Muni d'un de ces gros pains de la forêt, j'étais capable de vagabonder durant des kilomètres au sein de la nature sauvage, libre comme le vent dans les bois radieux.
Encore un texte de John Muir traduit par la voix de crooner de Jérôme Boulet. Alexis Gény, vous êtes avec nous pour nous parler de cette figure donc américaine. Est-ce que aujourd'hui il nous reste beaucoup de choses de John Muir, en tout cas dans le courant écologique? Est-ce que c'est un nom qui revient souvent parce qu'on parle beaucoup de Henry David Thoreau avec Walden, par exemple, La vie dans les bois. On connaît moins quand même les écrits de John Muir.
En France, on connaît moins. Alors, qu'est-ce qui reste? Dire que c'est le premier écologiste, tout ça, c'est un peu approximatif. La notion d'écologie, ça l'a jamais effleuré. Bon, ça a été inventé par Hans Haeckel dans les années 1860. Il était au courant par ses lectures, mais il l'a jamais employé. Par contre, ce qui reste, c'est ses écrits. Alors, moi, mon goût premier dans la vie, c'est comme la littérature. Et j'ai été charmé par ses écrits, par son écriture et surtout son écriture de la nature. C'est-à-dire que vraiment, ça m'a fait quelque chose, cette façon d'écrire. sur la nature. Et ça m'a fait envie aussi, voilà. Donc c'est notre lien avec John Muir, il passe par là, il passe par l'écriture. Donc ça reste, je ne sais pas si c'est le premier écologiste, mais c'est un des grands ancêtres de l'écriture de nature, du nature writing actuel.
Alors justement, le wilderness américain, c'est un style particulier littéraire qu'on n'a pas vraiment en France. Comment on pourrait le traduire d'ailleurs,
Le wilderness, on n'en a pas en France. En France, nous sommes un jardin depuis 2000 ans. Minimum. Ouais. Donc, on n'a pas de grands espaces sauvages. Hein. Il y aurait que l'Aubrac, mais encore, ça a été brouté. Non, franchement, nous avons des romans ruraux. Nous avons peu de romans de nature, parce que l'environnement n'est pas le même. Par contre, ça me fait très envie. C'est-à-dire que depuis que je travaille sur John Muir, je me mets à lire du nature writing américain, et je rêve de me plonger là-dedans en France. Enfin, voilà, bon, ça c'est un projet.
Il y a aucun auteur français.
Il y en a.
Quand même.
Oui, si, il y en a. Mais c'est vrai que c'est une vraie tradition américaine, parce que il y a
que vous aimeriez épouser vous-même dans votre
écriture. Ça me fait envie de tout. Sachant que c'est pas traduisible comme ça, quoi.
Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait pour écrire comme ça, Alexis Génie ? Il faudrait que vous alliez vous-même vous plonger dans la nature pendant plusieurs mois.
Voilà.
Hein, faudrait quitter Libourne un petit peu.
Eh ben voilà, mais bon, je sais pas si mon entourage va être d'accord.
Mais vous pouvez partir à deux, peut-être, non ?
Voilà, mais bon, après, à deux, c'est pas la même chose. Non, mais bon, il y a plein de choses qui sont aussi des ambiances culturelles très différentes, et puis une ambiance mystique très différente, voilà. Mais bon, ça reste l'œuvre de John Muir, ça reste quelque chose qui est important pour moi. Voilà.
Ouais.
Donc ça reste. Et puis après, il y a cette idée de préservation aussi, mais qui est pas que pour des raisons pratiques. C'est pour des raisons aussi de rapport de l'homme à son environnement. Alors, j'ai eu travaillé un jour sur Laudato si, la lettre du pape, qui parle aussi de création. Et l'homme a une responsabilité vis-à-vis de la création. Alors, ce sont des termes qui sont théologiques, mais ont un aspect, des conséquences pratiques, écologiques.
Bah, pour ceux qui croient à la création, en tout
cas. Oui, puis tant qu'à faire, à la fin, si on protège, c'est bien.
Alexis Génie, il y a quand même une part d'ombre dans le personnage aussi de John Muir, qui serait, selon certains, arrangé dans la catégorie des suprémacistes blancs. Ça, c'est vraiment le côté raciste, on l'accuse parfois. Le Sierra Club, d'ailleurs, qu'il a lui-même fondé, a dénoncé assez récemment, en 2020, ses propos. Voilà ce que disait Michael Brune, le président repris par The Guardian. « Il est temps d'abattre certains de nos propres monuments, car Muir n'a pas seulement tenu des propos racistes, qualifiant les Indiens de sales ou les Noirs de paresseux. Il était également très proche d'autres membres du club qui appelaient à la stérilisation des Noirs et à la promotion de la race par l'eugénisme. »
Vous avez bien noté, il était très proche d'eux. C'est pas lui qui l'a dit, c'est d'autres qui l'ont dit. Alors, cette idée d'être très proche, qu'il faut prendre les distances...
Il a qualifié les Indiens de sales ou les Noirs de paresseux.
Tout à fait, je sais où. Je sais où très précisément, mais il y a des circonstances particulières. Les Indiens dont il parle, c'est un jour dans la Sierra Nevada, il rencontre des Indiens qui viennent lui demander de l'alcool et du tabac, qui sont vraiment misérables. Et il écrit qu'il a un geste de retrait. Et puis après, donc ça dure deux lignes. Et après, il y a une page de culpabilité. Il y avait ça, mais c'est quand même mes frères humains, comment ça se fait que j'ai pu avoir... Ces Indiens, c'est les survivants du massacre. Ce sont des Indiens totalement clochardisés qui vivent dans la forêt cachés. Donc vraiment, c'est des réfugiés au dernier degré de l'appauvrissement et de la misère. C'est ça, ça dure une page. Après, dans Le Voyage en Alaska, il y a des pages et des pages et des pages d'éloges vibrants des Indiens et de leur civilisation. Et c'est pas du tout paternaliste, c'est vraiment empathique. Et il est à fond dans l'amour de ces Indiens d'Alaska qui lui offrent un modèle de vie. Donc
l'image du suprémaciste blanc, pour vous, ça ne tient pas pour John Muir ?
Ça ne tient pas du tout. Les preuves textuelles ne sont pas mises en contexte et elles sont très très faibles. Donc franchement,
parce que certains vous ont reproché à la sortie de la bio de ne pas avoir exploré cette part d'ombre.
Absolument, et ça me fâche. Ça me fâche.
Pourquoi ? Ça ne vous paraît pas fondé ?
Ouais, ça ne me paraît pas fondé. Je pense que les gens qui me font ce reproche-là ont mal l'humeur. Et je peux... le doigt sur la ligne, dire que mais non, ceci a été dit dans telle circonstance, et telle autre chose dit totalement le contraire, et c'est beaucoup plus important.
Allez, on va passer aux questions des auditeurs et des auditrices. Alors justement, Magali, qui est professeure d'histoire géo en Bretagne, nous écrit pour dire, juste pour ajouter que dans les cours de spécialité de terminale histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, on étudie les idées de John Muir dans le thème de l'environnement aux États-Unis.
Absolument.
Vous le saviez ?
Et c'est vrai que, oui, j'ai même été consul... Enfin, on m'a demandé de causer à des lycéens à ce propos, que j'ai fait avec plaisir.
Donc ça peut avoir un écho aujourd'hui. Sarah dit, John Muir avait-il des relations ou des échanges avec d'autres écrivains ou intellectuels de son époque ? On parlait de Henry David Thoreau, d'ailleurs, il aurait pu le rencontrer.
Alors, il ne l'a pas rencontré. Il a rencontré Emerson.
Emerson
ouais. Qui était le maître de
Absolument,
Thoreau.
Absolument, de Thoreau.
Après, il est allé sur la tombe de Thoreau. Et il a dit, mais pourquoi il dit qu'il vit dans les bois, et c'est à 1 kilomètre de son et il y a le train qui passe au bout du chemin, enfin, quand même. Et non, il était en lien avec beaucoup de gens. Il avait une idée de la sociabilité par l'être. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait être un peu... Thoreau avait la même idée, Emerson avait la même idée. La sociabilité, c'était des gens éloignés qui s'écrivaient.
Ne pas oublier, dit Pascal, de parler de la BD de Loming, dessinateur rennais au cœur des solitudes aux éditions Sarbacane, multiprimée.
Oui, c'est une super BD, je l'ai rencontré à Saint-Malo. J'ai connu son existence la veille de la rencontre, et là, on s'est extrêmement entendus.
Ouais.
On a fait une super table ronde, on était vraiment en ping-pong parce qu'on avait la même vision de Muir.
Et Louise demande, John Muir était-il un peu fou ?
Oui, un peu.
Ouais. Un peu beaucoup ?
Non, il était bizarrement socialisé. Mais après, bon, il avait une énergie folle. Il voulait partir comme ça à l'aventure. Il voulait être dans le monde. Comme tous les grands voyageurs, sont un peu dingues.
Ouais, enfin, sauf que lui, il a vraiment éprouvé la nature toute sa vie. Hein. Ça a été vraiment quelque chose. C'est quand même assez rare, ça.
Il s'est forgé dans la nature, c'est rare. Et puis, c'est rare d'y survivre à ce point-là.
Ouais. Il y a d'autres questions pour vous sur franceinter.fr qui vont arriver dans un instant. Un petit mot sur la femme de John Muir quand même, Alexis Jenny.
Il s'est marié sur le tard.
Il a une relation incroyable.
Ouais, bah, en fait, il s'est fait marier par ses amis.
Ouais.
Et une femme particulière, une femme qui en gros voulait pas trop se marier, a fait des études à l'époque, c'était quand même pas rien, qui voulait pas d'une vie bourgeoise habituelle, et se sont extrêmement bien entendus.
Ouais,
vraiment bien.
Parce qu'il fallait le supporter, j'imagine.
Il y a une correspondance merveilleuse entre les deux. Mais au bout d'un moment, sa femme lui a dit, écoute, John, j'ai épousé un voyageur. Retourne voyager.
Ah oui.
Et donc, il est retourné voyager et il lui écrivait. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour lui raconter.
C'est ça.
Je trouve ça très beau, très étrange et très beau.
Oui, elle devait être très soulagée aussi qu'il parte un petit peu. Non, parce qu'on imagine qu'il devait tourner comme un tigre en cage.
Il y a des gens qu'il vaut mieux avoir en lettres qu'à la maison.
Oui, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment une vie romanesque, une réflexion aussi sur ce qu'est le naturalisme aujourd'hui, Alexis Jenny. Et on peut relire. Donc, j'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, puisque vous êtes l'auteur de cette biographie. Vous allez continuer d'ailleurs sur la biographie. Il y a eu Francis Allais aussi, voilà, ça fait l'objet d'un livre qui a été publié.
Il y a eu Fridtjof Nansen, qui est un explorateur polaire norvégien, qui a inventé le passeport pour les apatrides. Et puis en effet, Francis Allais, botaniste contemporain.
C'était un autre ouvrage qui est sorti avant l'été.
Voilà, tout à fait. Et puis bon, j'espère ne pas m'arrêter là et continuer à parler des grandes figures de naturalistes, d'explorateurs.
Ouais. Encore un petit mot, tiens. Simone nous dit, je suis très heureuse d'entendre parler de John Muir étant un peu désabusé, ces livres me font du bien tout simplement. Et puis Christiane nous dit, c'était un héritier d'Alexander Humboldt, dommage que vous ne parliez pas de lui.
Ah,
bon, là, ce serait l'objet d'une autre
biographie. Il faudrait un énorme livre, parce que Alexander Humboldt, c'est aussi quelque chose, c'est l'universitaire alpiniste quoi.
Mais pareil, un autre grand nom, en tout cas, est très inspirant pour beaucoup de gens. Merci beaucoup, Alexis Jenny. J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, c'est chez Paulsen. C'est un dossier qui a été préparé par Lucie Sarfati. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré. À bientôt, et bon retour à Libourne.